Calade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditrices et auditeurs de Calade ma radio, c'est l'heure de votre émission Couleurs du monde. C'est la première de l'année 2026 et toute l'équipe vous souhaite une très belle année. Il est encore temps de le faire. Et pour démarrer cette année, on va parler d'un sujet tout à fait intéressant, la justice, avec une invitée, c'est Émilie. Salut Émilie.
Bonjour à vous.
Voilà, à la technique, on a Jean-François. Et bien sûr, avant d'aller plus loin dans l'émission, c'est la chronique Nuances du Monde et le retour de notre très 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 cher prof Patrick. Salut!
Bonjour tout le monde.
Calade.
Les couleurs du monde.
Alors, de quoi tu vas nous parler, prof Patrick, pour démarrer cette année 2026?
D'abord, je vais souhaiter une bonne année aux auditeurs et auditrices de Calade ma radio. Et je les entends, oui. Alors, commencez par aller. Je sais, auditeurs, auditrices, nous vivons des temps sombres. Hein. Le fascisme progresse dans le monde entier. On l'a remarqué il n'y a pas longtemps. Les bonnes résolutions prises depuis environ 10 ans pour affronter les problèmes majeurs du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité, tout ça, c'est poubelle, foulé au pied par la contre-révolution de l'ami Trump et de tous ses fans dans le monde entier.
Ouais.
Variante française, à mort les écolos, par exemple.
Tout
bref, c'est pas la joie. Hein.
Eh ben non, alors tu nous remontes pas franchement le moral là pour démarrer l'année 2026?
Eh ben si, c'est ma bonne résolution de 2026, on va changer ça. Oh les cœurs, auditeurs de Calade ma radio, aujourd'hui je vais entamer cette deuxième partie de la décennie 2020,
en
vous remontant le moral.
Ah bah ça c'est un bon programme, et puis c'est pas fréquent chez toi.
C'est pas fréquent,
ouais. Alors comment tu vas t'y prendre?
J'ai l'habitude de plomber tout le monde, donc c'est vraiment un gros changement pour moi. Eh bien je vais faire ce que je sais faire le mieux, vous parler d'un livre génial, magnifique.
Super.
Un livre qui parle de ces enjeux environnementaux fondamentaux de notre 21e siècle, mais qui a justement été écrit pour changer la perspective sur tous ces sujets.
Mais c'est génial, mais alors c'est quoi ce livre?
Il s'appelle « Première génération ». Il a été écrit par une jeune femme, une chercheuse écossaise de seulement 32 ans. Elle travaille au sein du programme de développement mondial de l'Oxford Martin School. Elle est directrice de recherche de Our World in Data. Et je m'aperçois que je n'ai pas mis en note son nom. Bravo, bravo prof
ah,
Patrick.
Ah bah mince.
C'est Anna Ritchie.
Très bien.
Tu crois que t'aimes coincé comme ça.
On mettra le lien de toute façon dans le podcast,
oui,
donc les auditeurs et les auditrices pourront le retrouver.
Alors, comment vous dire, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit ligne après ligne, à la fois bon sang mais c'est bien sûr, en mode révélation,
okay.
Et aussi, mais je sais tout ça. Alors, je ne dis pas ça pour faire le malin, hein, désolé, je fais référence à des connaissances que j'ai accumulées au fil des décennies et que j'utilise largement dans mes métiers de prof et formateur. Simplement, je n'avais pas rassemblé tout ça en un tout cohérent.
Ok, mais du coup, t'es bien mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est là que ce tout cohérent, cette révélation incroyable que tu as eue?
C'est simple, et pourtant révolutionnaire, c'est le geste qu'a fait Anna Ritchie et qu'elle nous invite à faire à travers ce livre, c'est de rassembler ce qui est épars et de changer de perspective. Oui, nous affrontons des enjeux environnementaux parmi les plus lourds jamais affrontés par les êtres humains dans leur longue histoire. Oui, nous affrontons un backlash, une contre-révolution, une contre-attaque terrible de l'immense camp des autruches. Ceux qui préfèrent s'enfoncer la tête dans le sable plutôt que de voir la réalité en face. Un camp qui compte des acteurs surpuissants, à commencer par le président Trump, qui s'accorde de milliardaires fascisants. Et pourtant, eh ben nous sommes, vous êtes, et là je parle à la jeunesse avec qui nous, profs, on est quand même un repère de sales gauchistes de profs là, dans cette salle.
Tout à fait, c'est pas faux.
Travaillons tous les jours. Les jeunes, vous êtes la première génération dans l'histoire humaine qui allait laisser notre planète en meilleur état que l'état dans lequel on vous l'a légué. Vous êtes la première génération.
Comment ça? Bah, tu peux nous en dire plus?
Allons-y. Anna Ritchie traite de 7 problèmes environnementaux cruciaux que nous affrontons. Pollution de l'air, changement climatique, déforestation, alimentation, perte de biodiversité, plastique dans les océans, surpêche. 7 problèmes. Sur chaque sujet, le bilan est vraiment inquiétant. Les conséquences des dégradations sont vraiment lourdes. Mais nous ne sommes pas de petits êtres humains chétifs et nus face à l'abîme. Nous sommes des êtres humains qui vivons dans la meilleure époque possible de toute l'histoire de l'humanité.
Alors attends, tu peux nous expliquer là?
Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque qu'aujourd'hui pour vivre sur notre planète. Des exemples. Mortalité infantile. Autrefois, 25% des enfants mouraient avant un an. 25% mouraient avant la puberté. En 1800, 43% des enfants mouraient avant leur cinquième anniversaire. Aujourd'hui, c'est seulement 4%. Au Mali, dans les années 50, c'était 43%. Aujourd'hui, c'est seulement 10% au Mali. Ouais. Mortalité maternelle. En 1850, 6 femmes mouraient à l'accouchement, avant ou après, ou pendant, sur 1000 naissances en Angleterre. 8 femmes sur 1000 aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à quasiment zéro. Mmh. Même en Afrique subsaharienne, ce risque a reculé de plus de 40% depuis l'année 2000. Espérance de vie. Au Royaume-Uni, jusqu'au 19e siècle, entre 30 et 40 ans d'espérance de vie. Au début du 20e siècle, 50 ans d'espérance de vie. En 1950, 70 ans. En 2019, on est au-dessus de 80 ans. Cette augmentation se constate même dans les pays les plus pauvres. Faim et nutrition. Dans les années 70, 35% des habitants des pays en voie de développement ne recevaient pas assez de calories pour leur alimentation quotidienne. En 2015, c'est seulement 13%. On est passé de 33 à 13%. Accès aux soins, aux besoins essentiels, eau potable, énergie, hygiène. En 2020, 75% de la population mondiale avait accès à une eau propre, contre 60% en 2000. Et 90% de la population mondiale a accès à l'électricité. Éducation. En 1820, seuls 10% des adultes en Occident avaient des compétences élémentaires en lecture. En 1950, c'est plus de 50%. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. Et dans les pays à faible revenu, les pays les plus pauvres, on a quand même 60% des filles qui vont à l'école primaire jusqu'au bout. Pauvreté extrême qu'on mesure par la somme de 2,15 dollars américains par jour. En 1820, c'était plus des trois quarts d'humanité qui vivaient sous ce seuil. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. En 1990, ils étaient encore 2 milliards. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 648 millions.
Alors, effectivement, quand on rassemble toutes ces informations, c'est assez impressionnant. Mais enfin, est-ce que ça n'a pas réglé les problèmes environnementaux, cette histoire-là ?
Je t'explique. Ce qu'il faut comprendre de ce que je viens de dire, c'est que nous avons les moyens de mener ces 7 combats majeurs identifiés par Annarici. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur ce livre. Il est structuré chapitre après chapitre de façon identique. Il prend les 7 combats majeurs un par un. Chaque combat est analysé en mode comment nous en sommes arrivés là, puis ensuite où en sommes-nous aujourd'hui, et enfin une analyse des solutions existantes. Sans parler d'une petite partie toujours intéressante qui est ce qui ne mérite pas qu'on s'inquiète outre mesure.
Ok. Du genre Monsieur Trump, par exemple, le prend en compte cet acteur-là qui
prend
arrive
toutes les résistances.
Sur le terrain.
Oui, tout à fait. Alors, au fil de notre lecture, vient une deuxième prise de conscience en mode bon sang, mais c'est bien sûr.
Oh là là, mais dis donc, tu nous fais du suspense là. Alors, c'est la chronique suspense, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience ?
C'est le fait que sur quasiment tous les sujets, on a une trame qui se répète. Apparition du problème, montée en puissance du problème environnemental, les 7 là, puis un pic est atteint. Et la courbe des dégâts environnementaux commence à régresser. Une sorte d'évolution en forme de U inversée. Et vous savez quoi ?
Ben non, tu vas nous dire.
Sur quasiment tous les sujets que j'ai évoqués, les 7 sujets que le livre étudie, nous avons passé le pic. Les problèmes sont en voie de régression. Sur quasiment tous les sujets, on sait quoi faire. Et la plupart du temps, on a commencé à agir efficacement.
Alors, tu as des exemples qui nous montrent ça ?
Oula, j'en ai, en veux-tu, en voilà. Alors, en vrac. De 2013 à 2020, la Chine a réduit de 40% la pollution de l'air sur tout son territoire. Et sur Pékin, elle l'a réduit de 55%. En 10 ans, le coût de l'électricité solaire a baissé de 89%. Le coût de l'éolien terrestre a baissé de 70%. Ils sont désormais moins chers que le charbon. Un pays en développement n'a donc plus obligation de passer par un usage massif du charbon pour se développer. Le pic de déforestation mondiale a été atteint dans les années 80. Aujourd'hui, le taux de déforestation est inférieur de 26% à celui des années 90. On peut diviser par 2 les surfaces de terre occupées par l'agriculture dans le monde entier, juste en mangeant moins de bœuf et d'agneaux et plus de volailles et de porc. Et on peut aujourd'hui fabriquer des substituts de steak que les amoureux de bœuf préfèrent au vrai steak quand on fait des tests en aveugle.
Ah ouais, vraiment ?
Ouais. La population des insectes n'a pas baissé de 75% en 27 ans, comme l'affirme une seule étude allemande. La 6e extinction de masse nous menace effectivement, mais on sait comment faire redémarrer des espèces en voie de disparition. Et enfin, on a identifié précisément combien de plastiques finissent dans l'océan, d'où ils partent, et comment les arrêter, et comment ramasser les plastiques présents.
Alors maintenant, il faut le faire, hein, c'est bien ça.
Tout à fait, il faut le faire, tout n'est pas acquis. Non, je finis avec le pic de la surpêche. Le pic de la pêche et la surpêche a été atteint en 1968, et il ne cesse de diminuer depuis.
Bon, écoute, c'est très, très rassurant et ça nous aide à bien démarrer 2026, tout ça.
Exactement.
Une conclusion, prof Patrick ?
Très simple. Lisez Première Génération de Annarici et partez au combat. Parle aux jeunes notamment, mais aussi aux adultes. Soyez la première génération qui verra la victoire de son vivant.
Eh bien, super. Merci, prof Patrick. Galade.
Les couleurs du monde.
Alors, nous voilà de retour pour notre thème principal de l'émission, la justice, avec Émilie. Alors, on va parler d'abord de façon un peu globale du fonctionnement de la justice, comme tu vas nous poser un peu les bases pour qu'on comprenne tout ça. Ensuite, tu vas nous parler un peu de toi et de ce que tu fais toi au tribunal, et notamment, on va parler de la justice des mineurs.
Exactement.
Et puis, enfin, on va un petit peu s'interroger sur l'impartialité de la justice, et notamment dans ce domaine de la justice des mineurs, et puis aussi peut-être comment elle s'adapte aux évolutions de la société.
Vaste sujet, effectivement, hein, ce matin.
Alors, du coup, bah, peut-être déjà commence par nous expliquer un peu la justice, comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là.
Alors, c'est vrai que quand j'ai vu tes questions, Emma, j'étais un petit peu circonspecte, parce que je me suis dit, oh là là, mais quel vaste sujet, la justice, je vais passer 5 semaines au micro à parler de la justice, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est, de son fonctionnement. Et en fait, c'est vrai que la justice en tant que thématique est tellement large qu'on va essayer de structurer un petit peu cette justice, justice en tant que contre-pouvoir, hein, c'est vrai que la justice est un de nos piliers hein, sur notre République, un véritable contre-pouvoir, notre pouvoir législatif, notre pouvoir exécutif, on a le pouvoir judiciaire qui est représenté par la justice. On a également cette justice représentée par des tribunaux, dont on va parler un petit peu après, il me semble, hein, sur les différents tribunaux. On a aussi une justice faite d'hommes et de femmes, et c'est ça qui m'intéresse le plus, je crois, ici. Savoir qui sont les officiers de justice et qui sont-ils, quelles sont finalement leurs spécificités, parce qu'on va s'apercevoir, en fait, avec la justice des mineurs, que la justice, c'est aussi donc, des juges, des procureurs qui sont issus d'instituts nationaux, qui ont une formation très solide, très poussée. Mais c'est aussi la justice des hommes et la justice civile et des gens comme moi qui viennent intervenir au niveau de la justice. Donc voilà, donc, au milieu de ce fonctionnement de la justice, moi j'avais envie de vous poser à toi, à Patrick, une première question. C'est quelle est l'image pour vous de la justice? Ça me permettra de rebondir un petit peu sur c'est quoi le fonctionnement de la justice. C'est quoi pour toi la justice, Emma, si tu avais une image?
Et bah, pour moi, la justice, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que la société fonctionne. C'est quelque chose qui va cadrer, en fait, la société pour qu'on puisse bien vivre tous ensemble.
Oui.
Tous ensemble.
Donc, la justice en tant que régulateur social,
c'est un petit peu ça que je vois en premier quand je pense justice.
C'est un peu l'image que j'ai. Et toi, Patrick, si je peux...
Alors, moi, je ne suis pas totalement novice, puisque j'enseigne un peu certains cours de droit, mais pas en tant que juriste, pas très poussé. Mais moi, je vois d'abord ce que vient de dire Emma, mais je rajouterais à ça son rôle essentiel de contre-pouvoir face aux dérives possibles du système démocratique.
Okay.
Et là, on est en plein dans une actualité très forte.
Eh bien, bien sûr. Donc, on a vraiment ces deux visions de la justice, vraiment au niveau, pour moi, macroéconomique, donc avec la régulation au niveau social et puis au niveau sociétal.
Voilà. J'ai une question qui me vient quand tu parles, alors qui va peut-être faire un tout petit aparté, mais j'ai l'impression qu'en France, comme la justice est complètement indépendante et qu'on a vraiment les trois pouvoirs qui sont totalement séparés, tu confies en ça?
Non, pas
complètement, voilà. Alors,
je ne veux pas spoiler ou anticiper, mais...
Ça, c'était déjà une question, et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'était quand même beaucoup moins le cas, puisque c'est le président qui nomme.
Je suis pas d'accord.
Ok, d'accord, et ben voilà. Alors, je veux bien des petits éclaircissements là-dessus.
C'est vrai qu'on a l'image de la justice à travers le média de la télé, du film, et on a cette vision américaine de la justice... qui n'est pas la justice française.
Ouais. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est vrai que les juges américains sont élus, il y a cette notion de territoire qui est très marquée. On élit des juges qui sont représentatifs aussi de nos pensées, de nos représentations, de la façon dont on vit. Alors en France, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Les juges, la majorité des juges sortent de l'ENM, l'École nationale de magistrature qui est à Bordeaux. Et le devoir d'impartialité, de neutralité, normalement, il est là pour justement... au niveau de Patrick, ce contre-pouvoir.
Je peux juste préciser pourquoi j'ai dit pas complètement pour la justice française, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la magistrature debout, qui sont donc les procureurs, etc. Tu préciseras les termes.
Bien sûr.
Qui, elle, dépend directement du ministère de la Justice et qui dépend de l'exécutif. Et donc, tous les pays européens, beaucoup d'instances mondiales reprochent à la France depuis des décennies cette entrave à l'indépendance de la justice, avec l'existence de la magistrature debout.
Et oui, c'est quoi la magistrature debout ?
C'est la distinction entre la magistrature du siège et le parquet. Et
d'accord.
C'est vrai que ce qu'on appelle le parquet, le mot parquet vient du petit parc, qui est un petit parc parisien dans lequel se réunissaient des magistrats autour du roi pour avoir des consignes et avoir une façon de juger à travers le territoire. Et c'est vrai que cette notion, qui est une notion plutôt pénaliste de la justice, c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, parce que le pénal n'est pas que la justice. La justice n'est pas que le pénal. C'est tellement vaste que c'est pour ça que c'est important de retravailler au niveau des images. Mais effectivement, il y a des consignes, et c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, la consigne principale des procureurs, on le sait, c'est les violences intrafamiliales. Il y a énormément d'actions autour des violences intrafamiliales. Et c'est vrai que les procureurs ne sont pas uniquement des représentants de la société civile au sein des tribunaux. Oui. Ils sont là aussi pour coordonner la police, la gendarmerie.
Et donc, l'action du gouvernement, finalement.
Et finalement, l'action du gouvernement avec un préfet, avec un ministère de l'Intérieur. Et donc, cette neutralité, elle est remise en cause, en fait, elle est remise en question à travers des décisions et des prises d'initiative au niveau étatique. Okay. C'est une réalité.
Mais alors, il y a bien à côté la magistrature assise, les juges qui, eux, sont indépendants.
Voilà, tout à fait.
Indépendants.
Alors, en revanche, cette magistrature de siège, elle est pour moi, neutre, impartiale.
Non, d'accord.
C'est celle dont on va parler aussi.
Juste, voilà, pour faire juste avant cette distinction, on va se faire une petite pause pour faire redescendre notre cerveau et pour vraiment bien comprendre tout ça.
Avec reposez-vous, auditeur.
Petite pause musicale.
Ça commence déjà à fumer.
Et c'est parti maintenant. Yeah. auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio. Nous revoilà dans l'émission Couleurs du Monde après cette pause musicale. Est-ce que tu peux nous dire, Émilie, ce qu'on vient d'écouter ?
Eh bien, nous venons d'écouter Human Behavior de Björk, qui est une chanson des années 90.
On sent que t'es pas prof d'anglais, hein, l'accent il est moyen.
Ah, je sais.
Et pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Eh bien, parce que...
Je fais l'école des fans.
L'école des fans, c'est vrai. Alors, eh bien, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle elle traite de nos comportements humains, hein, Human Behavior, avec mon petit accent français. Eh bien, c'est, pour moi, c'est la justice. La justice n'est là que pour aller réguler du comportement humain. Et je fais le lien entre ta vision, du coup, Emma, de cet esprit régulateur de la justice.
Très bien.
Et contre-pouvoir.
Ok. Calade.
Les couleurs du monde.
Alors du coup, est-ce que, pour reprendre la discussion qu'on avait avant, où on avait vu le distinguo entre le parquet et le siège...
Puisqu'on parle de justice aujourd'hui.
Puisqu'on parlait... Eh oui, puisque notre émission, elle porte sur la justice, puis je l'ai parodie. Merci pour Patrick d'être là pour me reprendre. Du coup, effectivement, voilà, sur le fonctionnement de la justice, juste avant la pause musicale, on parlait de siège et parquet. Alors moi, j'aimerais bien savoir un peu la différence entre les deux.
C'est vrai qu'on est revenu sur l'historique du parquet, sur le petit parc, mais donc sur la partie de la justice qui concerne la société civile, on a donc des procureurs. Hein, des procureurs généraux, des procureurs qui sont là pour représenter la société civile et qui, eux, sont donc les magistrats qu'on appelle les magistrats du parquet.
Oui.
Donc, ils sont là pour mener les enquêtes, ils sont là pour protéger les intérêts de la société civile. Et en parallèle, nous avons des magistrats du siège qui, eux, sont vraiment les piliers, on va dire, de la justice en tant que telle, qui sont là pour entendre les arguments de la partie civile, de la partie incriminée, ou alors des deux parties en présence et qui sont là pour trancher au niveau du droit et des faits.
D'accord. Par exemple, en gros, le procureur, il va plutôt intervenir dans un procès, alors que le magistrat de siège, ça va être par exemple le JAF qui va trancher pour une séparation.
Oui, alors c'est là où on peut glisser sur les différents tribunaux, et c'est vrai que la justice, c'est aussi différentes branches du droit, et il y a différents tribunaux. Et alors, en France, c'est assez complexe. Hein. Déjà, on a une distinction entre la justice civile et la justice administrative.
Oui.
Voilà, donc déjà, tous les actes administratifs, hein, on est entre enseignants, les actes d'enseignants sont partie de la justice administrative et relèvent de la cour, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel. Et donc après, c'est le Conseil d'État. Voilà, on a vraiment un parallèle de cette justice.
Donc, c'est une juridiction spécifique aux actes administratifs.
Aux actes administratifs.
Administratif, justice d'État.
Voilà, tout à fait.
Okay.
Et alors, on va plutôt s'apesantir sur...
C'est
une première branche. Et à côté, on a donc la justice civile, dans laquelle on va avoir un grand nombre de tribunaux. Les premiers, donc la justice civile en tant que telle, tu parlais du JAF, hein, qui est le juge aux affaires familiales, qui est la justice spécialisée pour les conflits qui interviennent dans les familles, où le rôle du juge, ici, est important, puisqu'il va intervenir à la fois comme juge, mais quand il est au tribunal, il change de rôle, et ça, on en reparlera quand on fera la justice des mineurs, il devient président du tribunal, et c'est lui qui est, on va dire, le régulateur social entre les différents intérêts des parties, et qui va trancher sur une solution. Mais à côté de cette justice civile, on va avoir donc cette justice pénale. Et dans la justice pénale, on va avoir ces deux magistrats. On va avoir le magistrat du parquet, donc avec le procureur qui est là pour les intérêts de la société, et le juge qui est là pour trancher entre les arguments du procureur et les arguments de l'avocat et de la partie incriminée.
D'accord. Donc par exemple, quand on a un procès au pénal, on a un procureur et un juge.
Et un juge et un avocat avec une partie qui a commis d'infractions, avec différents types d'infractions.
C'est juste une petite précision qui paraît évidente, mais c'est toujours mieux de le dire. La justice pénale, c'est à partir du moment où des personnes ont commis des infractions.
Voilà, des
à
infractions.
La loi.
Oui, c'est important. C'est pour ça que je le répète, on n'est pas comme sur une justice civile avec un divorce. Un divorce, il n'a rien d'une infraction.
Oui, c'est pas une infraction.
C'est
voilà.
Simplement, là, on est vraiment dans cet esprit de régulation sociale.
Okay. C'est à partir du moment où on a commis un délit qu'on va passer sur la justice pénale.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est plus que. Enfin, pas forcément le délit, c'est là où on va avoir différents types d'infractions. On a les contraventions.
Oui, voilà, c'est pour ça qu'un terme infraction rassemble toutes les catégories.
Rassemble les délits et les choses plus petites qu'un
délit. Les crimes aussi.
Voilà, et les crimes qui sont plus fortes.
Et puis, les crimes contre l'humanité, les crimes les plus graves, qui sont aussi dans le code pénal. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que cette justice pénale, elle va refléter cet esprit du parquet, du siège. Dans une justice pénale, par exemple, la partie civile, elle n'est qu'invitée. Elle n'est pas forcément présente. C'est ça qui est surprenant sur notre justice française, c'est que on a quand même une partie lésée, on a une partie qui va porter plainte ou qui va aller voir un avocat pour porter son cas en justice, mais elle n'est que invitée à un procès pénal.
La victime ne va pas intervenir.
Elle peut uniquement sur ses intérêts civils. Mais en fait, quand il y a une infraction de toute nature, cette infraction, elle est récupérée en fait par le parquet. D'accord. Elle va aller au niveau du procureur. Okay. C'est ça qui est
C'est la société qui porte plainte, et pas la victime.
Eh bien, c'est ça qui est difficile à comprendre dans notre fonctionnement de justice pénale. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une absorption de l'infraction de la personne au titre de... Le procureur va s'en saisir. D'accord. Et c'est lui, après, qui va redéfinir finalement le fait de justice. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des choses un petit peu spécial. Hein. Moi, j'ai assisté, par exemple, en tant qu'assesseur, on m'en parlait, à des correctionnalisations, par exemple. La correctionnalisation, par exemple, typiquement, c'est un choix du procureur quand il voit arriver les parties lésées, les parties qui ont commis des infractions, et ils vont décider conjointement du choix d'un tribunal.
D'accord.
Voilà. Et quand on correctionnalise, par exemple, eh bien, on ne va pas en cour d'assises, on décide d'amoindrir finalement l'infraction pour aller sur un tribunal correctionnel pour des raisons souvent pratiques, parce qu'on verra, le cours d'assises c'est très lourd à mettre en place.
Et justement, alors peut-être entre la correctionnelle
si je peux
et l'assise,
permettre, les parties civiles peuvent, dis-moi si je me trompe, aussi parallèlement à cette justice pénale, répercuter l'affaire au civil pour obtenir des dommages intérêts.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est la même affaire, c'est là où c'est compliqué. Soit le procès est ouvert au niveau du pénal, et donc elles peuvent intervenir au pénal pour demander des intérêts, des dommages intérêts, en fait, au niveau civil, dans un procès pénal.
Oui.
Et si elles n'interviennent pas au procès pénal, elles ont toujours la possibilité d'ouvrir une action au tribunal civil devant un juge.
Vraiment demandeuses et concernées et qui obtiendront dommages réparation.
On est sur la faute. Il y a une corrélation de la faute civile et pénale dans le droit français. C'est là où on rentre dans une complexité qui fait qu'à partir du moment où il y a une reconnaissance de la faute pénale, il y a automatiquement cette reconnaissance de la faute civile et qu'on peut demander.
Oui.
C'est pas automatique. On peut le faire.
Voilà. Okay. Des dommages et intérêts. C'est ça qu'on appelle des dommages et intérêts.
Des fameux dommages et intérêts. Et parfois même, on peut... Si on le décide, et c'est là où il y a quand même le choix aussi de la personne qui est victime, de ne pas porter plainte et d'aller directement au tribunal civil pour aller sur le terrain des dommages et intérêts, sans forcément d'aller sur le terrain des infractions, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Si on est incriminé, pardon, parce que je parle beaucoup, mais c'est vrai si on est incriminé au niveau pénal, on risque une sanction pénale. Et donc la sanction pénale, c'est pas les dommages et intérêts.
Hein. Non, c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est l'avertissement. Voilà, l'avertissement judiciaire probatoire aujourd'hui, c'est
Les amendes, tout simplement. Et puis la prison.
Et puis après, c'est la prison. Alors,
ou les travaux d'intérêt général.
Après, il y a d'autres choses qui se mettent en place, mais en substitution à cette prison, notamment les travaux d'intérêt généraux. Mais donc là, c'est pas tout à fait pareil quand même. On peut serrer les fesses quand on a fait des infractions.
Eh bien, tout à fait. Alors, pour finir sur cette partie-là, je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a le pénal ou bien le... J'ai perdu le terme.
L'administratif, civil.
La cour d'assises.
Oui.
Voilà.
Oui.
Alors, c'est quoi la différence entre un procès au pénal ou un procès en cour d'assises ?
Eh bien,
je voudrais qu'on ait la précision de la différence entre ces deux...
Tout à fait. Eh bien, dans les juridictions pénales, en fait, tu as trois types de juridictions en fonction du type d'infraction. Donc, tu as les contraventions qui sont au tribunal de police. C'est le tribunal qui est à Poitiers, avec une procédure beaucoup plus simple. Après, tu as le tribunal correctionnel qui juge des infractions, des délits.
Mm-hmm. Et on en a un à Villefranche.
Et il y en a un à Villefranche.
Oui, tout à fait.
Et aujourd'hui, on a aussi une cour départementale de justice qui juge les infractions qui sont à cheval entre les délits et les crimes.
D'accord.
Et aujourd'hui, donc la plus connue, c'est la cour d'assises. Et la cour d'assises, elle est à Lyon. C'est pour les crimes les plus importants.
En fait, c'est à partir du moment où il y a mort.
Quand on passe de délai à crime, c'est la définition juridique de crime. Alors là,
la
Émilie
définition,
va peut-être me dire plus, parce que moi, je ne la connais pas en détail.
Le crime, en fait, il est défini par sa sanction. C'est-à-dire que si tu commets une infraction qui est punie par plus de 15 ans de prison, et avec... j'ai plus le montant en tête. Il y a une amende, il y a un montant d'amende.
On t'en veut pas,
d'accord. Voilà, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, plus de 15 ans de prison, ça relève de la cour d'assises. Donc ça peut être... C'est pas forcément le meurtre. Hein, l'assassinat. Ouais,
il n'y a pas que ça non plus.
Il y a aussi, par exemple. Alors, souvent, la torture, elle est associée à d'autres choses.
Hein. Mais par exemple, la vaste question du viol.
Le viol,
qui, autrefois,
voilà,
était plus un délit et qui est devenu un crime.
Qui est devenu un crime. Tout à fait. Mmh. Aujourd'hui, c'est un crime. Et donc, normalement, tout viol doit passer en cour d'assises.
Okay.
Et en fait, c'est toute la complexité de notre droit français, c'est qu'une cour d'assises, c'est tellement difficile à mettre en place
que
la
majorité. Il faut des jurés, c'est bien.
Il faut des jurés. C'est pas une cour qui siège régulièrement, comme un tribunal correctionnel, par exemple, qui siège tous les mardis, tous les jeudis. Une cour d'assises, ça s'installe. Et c'est vrai que la majorité des viols sont correctionnalisés pour pouvoir passer facilement
sur l'infraction. Le justice serait engorgé.
Et en revanche, le cas de Dominique Pellicot, c'était en cour d'assises.
Ah oui, mais là voilà.
c'était un cas de viol bien plus grave qu'un simple viol historique.
Oui,
tout à fait. Non, mais voilà, c'était juste pour situer les auditeurs dans...
Voilà.
Comment ça se situe ? Alors, j'ai l'impression qu'on y voit un petit peu plus clair, là, sur le fonctionnement de la justice en France.
On va faire la sieste.
On va pas faire la sieste, on va peut-être passer, Émilie, à ton parcours, à toi.
Ah oui.
Et à ce que tu fais, toi, dans cette deuxième partie d'émission.
Alors, Émilie, que fais-tu ?
Explique-nous
ça.
Eh bien, je suis assesseur de justice. Je suis assesseur au tribunal pour enfants depuis 3 ans. Mm-hmm. Donc c'est une fonction bénévole. Je ne suis pas juge professionnel, mais j'interviens en fait à côté du juge pour enfants, et bien pour juger les infractions qui sont commises par les mineurs de moins de 18 ans, ont été commis quand les mineurs avaient moins de 18 ans au moment des faits.
Donc l'organisation de la justice prévoit qu'à côté du juge pour enfants, il y a des bénévoles qui sont assesseurs.
Tout
et je présume qu'il faut avoir un certain niveau de compétence pour devenir bénévole, non ?
Pas du tout.
Pas du tout,
pas
c'est
du
vrai.
Non, pour être assesseur de justice au tribunal pour enfants, il faut en faire la demande. Déjà,
d'accord.
Tout simplement, il y a un recrutement qui se fait par la juge des enfants. Et en fait, il faut avoir un intérêt à agir, vraiment du temps et un intérêt à agir pour...
Donc c'est la juge qui va décider après vous avoir reçu, non ?
Oui, tout à fait. On a un entretien. Comme un entretien d'embauche, avec déjà une vérification de notre CV, de ce qu'on a mis dans notre lettre de motivation.
Alors, est-ce que moi, je pourrais être assesseur, par exemple ?
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr. Tu peux en faire la demande. Il faut simplement que tu aies du temps et un intérêt vraiment à agir auprès de cette justice pour mineurs.
D'accord.
Mais autour de moi, j'ai des assesseurs qui sont d'anciens. Alors, c'est souvent des retraités, parce qu'ils ont du temps, mais
j'ai disponible.
Une assesseur qui était chef proviseur, chef d'établissement. Il y a un médecin.
Donc, il y a beaucoup d'assesseurs, ne serait-ce sur Villefranche, par exemple, vous êtes nombreux comme assesseurs ?
Sur Villefranche, c'est un petit tribunal. Il y a deux juges pour enfants.
D'accord.
Donc, il y a une session de tribunal, on va dire, par mois. C'est peu. Contrairement, si je fais le comparatif par rapport à Lyon, qui est vraiment une très grande juridiction, il y a 9 juges pour enfants.
D'accord.
Et donc, 2 sessions par semaine.
Ça
change la donne, parce qu'effectivement, il y a une histoire de nombre et d'infractions qui sont commises par rapport à Villefranche, petit territoire, et donc avec 2 juges pour enfants. Et donc, associés à ces juges pour enfants, donc des assesseurs. Donc, il y a dans la justice des mineurs, systématiquement, en fait, un juge assorti de 2 assesseurs qui ont en fait le même poids au niveau du jugement que le juge.
Lors des séances, une fois par mois, alors.
Voilà, tout à fait.
On les appelle comment, ces séances de juge pour enfants ? Elles ont un nom particulier, non ?
Non, c'est simplement c'est des séances de tribunal, en fait. Parce que le juge pour enfants, il a la double casquette, il intervient au tribunal, et donc il est juge au pénal, mais il intervient aussi au civil, en fait, quand il fait de ce qu'on appelle de l'assistance éducative. Donc il va recevoir les familles, les enfants qui sont en très grande difficulté, qui ne sont pas forcément délinquants. J'ai eu l'occasion d'assister à ces sessions d'assistance éducative. Donc on a, par exemple, des situations de négligence où on a l'intervention d'autres acteurs, notamment l'aide sociale à l'enfance, la sauvegarde 69, avec des éducateurs spécialisés qui vont venir faire des missions autour de la surveillance de ce qui se passe dans les familles.
D'accord.
Alors, la séance une fois par mois, c'est au pénal, et en plus s'ajoutent des séances au civil.
Voilà, tout à fait. C'est le rôle du juge, en fait.
Et toi, tu participes aux deux.
Eh bien, en tant qu'assesseur, moi, mon rôle, il est uniquement au niveau du tribunal.
D'accord.
J'ai demandé à assister à des séances d'assistance éducative avec la juge, mais c'était purement.
D'accord. Les
assesseurs, c'est pour le pénal.
D'accord. Et alors, concrètement, un assesseur, il fait quoi ?
Alors, l'assesseur, il écoute. Qu'on reprenne un petit peu, c'est comment ça se passe un procès pénal quand on est mineur. mineurs. Là. Le principe du tribunal pour enfants, c'est un tribunal qui n'est pas public, contrairement au tribunal judiciaire classique pour les adultes, où là, les séances sont publiques, on peut venir y assister. Le tribunal pour enfants, du fait de la minorité des jeunes, c'est complètement fermé, les portes sont fermées, il y a un huissier qui vérifie voilà, qui sont dans la salle. Et donc, c'est un huis clos qui se joue entre donc, la juge, qui prend le rôle de présidente du tribunal, deux assesseurs qui sont là pour écouter. Donc, moi, je suis là, je suis à gauche ou à droite de la juge, c'est quand même très impressionnant. Derrière le comptoir, et je ne porte pas la robe, je suis en civil. Je suis vraiment là pour représenter les intérêts civils, un petit peu comme les jurés voilà, au cours d'assises. Mais ce n'est pas du tout la même fonction. Et à côté de ça, donc, on a notre procureur de la République qui, lui, va défendre les intérêts de la société et qui plaide, en général, de manière très solennelle.
Pour dire l'accusation, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça, qui propose, en fait, une peine autour de l'infraction des mineurs. Et puis, souvent, on a les mineurs avec leur avocat. Maintenant, c'est devenu en plus obligatoire. Là, j'ai vu, la loi est passée, donc chaque mineur doit être assorti d'un avocat. Donc, c'est très bien. Et souvent, on a la partie civile, comme on est sur des mineurs, on est sur des choses qui sont quand même très particulières. Et on a souvent la partie civile qui est là, avec des mineurs, souvent, leur famille ou des mandataires
avocats. C'est la partie lésée.
Voilà. Et elle ne vient pas forcément réclamer des intérêts au civil, de dommages à intérêts. Elle vient surtout, quand on est sur un procès pénal mineur, il y a cet esprit régulation, un peu de réparation.
Réparation,
c'est ça. Et donc, souvent, se joue au-delà de la sanction, au-delà d'un procès classique de droit, sur un tribunal pour enfants, se joue aussi la partie psychologique.
Et le fait de reconnaître.
Tout à fait.
La reconnaissance qu'on a subi.
Ou reconnaître, admettre qu'on a commis des actes.
Aussi, bien sûr.
S'excuser. J'ai vu un nombre incalculable de jeunes qui s'excusent.
L'enjeu, c'est ça, c'est amener le jeune à regarder en face et à reconnaître ce qu'il a fait.
À prendre conscience.
Ça a vraiment cette double fonction, ce tribunal pour mineurs. Donc, on est devant un tribunal, donc devant le juge, devant un président, devant un procureur. C'est quand même très solennel avec des gens en robe. Donc, il y a cet effet où...
On prend conscience
qu'on a fait des conneries.
Je vais faire ma propre offre, mais Victor Hugo dit par exemple que la justice, c'est vraiment fait, pas pour condamner au sens écrabouiller celui qui a mal agi, mais pour le faire avancer, le faire devenir meilleur. Et là, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est vraiment, on est au cœur de ça.
Mais complètement. Ouais. Et c'est vrai qu'on prendra après un peu le rôle de la juge, mais moi, la juge avec laquelle je travaille, elle est extraordinaire pour ça. On sent qu'elle est dans une humanité incroyable pour pousser ces jeunes à revenir sur le droit chemin.
Et finalement, faire avancer autant la victime que celui qui a commis la faute.
Et quelque part, la société, pour qu'elle fonctionne.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. C'est
et d'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai assisté l'année dernière donc avec des élèves à deux séances de tribunal correctionnel et j'ai eu exactement ce même ressenti. C'est-à-dire ce travail du juge qui m'a énormément impressionné pour... amener la personne accusée petit à petit à accepter de regarder en face et de prendre conscience. C'est vraiment un travail d'accouchement.
Complètement.
C'est vraiment, très impressionnant.
C'est pour ça que je voulais commencer par on a commencé cette émission par quelle image vous avez de la justice. Mais pour moi, l'image de la justice, c'est le juge. Et aujourd'hui je suis vraiment toujours un peu impressionnée par ce rôle du juge, vraiment qui est au cœur de cette justice, et humain, et ce travail de maïeutique qui fait accoucher les gens.
Alors maïeutique, c'est pas un terme qu'on connaît très très bien. Tu traduirais ça comment,
tu parlais d'accouchement.
Accouchement des âmes. Oui, Socrate, je crois, il disait que la maïeutique, c'est faire accoucher les âmes. L'esprit, quoi.
Oui, mais on est complètement là-dedans.
Il passait par là, mais on n'a pas pu discuter. Donc. Socrate et moi, ça n'a pas été...
Mince.
C'est dommage.
Écoute, Émilie, je pense que là, on voit bien quand même ce qu'il en est et ce que tu fais au tribunal des mineurs et à quoi ça correspond. On va se faire une petite pause musicale pour digérer tout ça.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée. Écoute de scanner pour garder le contact. Ou décider de bouger, éviter les zones rouges. Et surtout, jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Ramène du fils. Laisse pas traîner ton fils.
aller avec la rue, j'ai une illusion, je trouve le mieux j'ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge, pour entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de serin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'immisce,
mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pu dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort. Mais tu finis borné à force de tourner. Ton cerveau te fait des faux, te fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira juste pour le pas. Qu'on te dise voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. Base de Kuba, de coups, de tombas, d'esquives. Je te perds ce putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Auditrices et auditeurs de Kaladma Radio, vous êtes toujours dans l'émission Couleur du Monde qui porte sur la justice. On est avec Émilie et on vient d'écouter une chanson, mais qu'est-ce qu'on a écouté, dis donc ?
Alors, qu'est-ce qu'on a écouté ? On a écouté un vieux titre de rap des années 90 des Suprêmes NTM, hein, qu'on ne connaît pas dans ce rôle-là, mais qui s'appelle « Ne laisse pas traîner ton fils » et qui raconte l'histoire de ces familles négligentes qui laissent finalement leurs enfants dans la rue. Et la rue, c'est l'appel de la délinquance, voilà, de toutes sortes de
on est dans le sujet.
On va parler, donc on est dans
tout
le sujet.
À fait, tout à fait, exactement.
Calade.
Les couleurs du monde.
Et alors justement, la question qu'on voulait se poser pour cette dernière partie de l'émission, c'est est-ce que la justice, elle est toujours impartiale? Et aussi peut-être, comment est-ce qu'elle évolue en même temps que la société?
Ouais.
À mon sens, c'est vraiment la question principale. Mais c'est vrai que sur cette impartialité du juge, on en parlait en début d'émission, mais je vais parler, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, sur, au tribunal pour mineurs, et ce rôle toujours du juge et quand elle est donc en audience et qu'elle juge. Alors, il faut savoir qu'un procès comporte plusieurs étapes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément. Il y a tout d'abord le déroulé des faits. Donc, on est vraiment dans l'infraction et qu'est-ce qui nous a amené là et pourquoi on a une personne ou des personnes qui sont incriminées de telle ou telle infraction.
Et ça, c'est le ou la juge qui énonce les faits.
Tout à fait. Alors ça, de toute façon, la juge parle pendant tout le procès. Moi, en tant qu'assesseur, on nous donne la parole. Il y a des moments où on nous donne la parole si on veut poser des questions, justement, pour éclaircir certains points ou guider la justice. Mais sinon, on ne parle pas. C'est vraiment la juge qui parle.
D'accord.
Et donc, il y a cet énoncé des faits qui est là et qui permet, dans un premier temps, à la personne de justifier ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. J'étais là, j'étais pas là. Voilà. Si, ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Les avocats ne parlent pas forcément. Il y a vraiment ce rapport de la juge à l'incriminé.
Avec l'incriminé.
Avec l'incriminé. C'est très, très fort.
Et au tribunal correctionnel, c'est pareil. Il y a un long moment où ça se passe entre le juge et la personne incriminée.
Tout à fait.
Et on voit qu'il présente les faits et il pousse la personne à dire les choses.
Voilà.
Et ça, parfois réticente.
Je suis allée aussi avec des élèves au tribunal correctionnel l'année dernière et la juge, à un moment, a engueulé le gars. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, elle lui fait fermer sa bouche à ce type qui se croit tout permis. C'était un type qui avait de nombreuses fois agressé son ex-compagne. Voilà. Oui. Et elle lui a dit, monsieur, maintenant, vous allez vous taire. Ici, la juge, c'est moi. Donc, vous parlerez quand je vous donnerai la parole.
Rappelle le lieu. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on
n'est
pas chez toi?
ouais. impressionnant. Mes élèves, ils pipaient pas un mot.
Non, les élèves ne mouffent pas quand ils vont voir.
Et en fait, ouais, vraiment, là, on voit qu'elle a, elle a remis à sa place. Vraiment, ouais. c'était son rôle.
Et ben, tu vois, déjà dans ce rôle d'impartialité, d'aller engueuler, parce que moi je le vois souvent, d'aller engueuler la personne incriminée. Est-ce qu'on est toujours dans ce rapport impartial? On est quelque part dans cette frontière où finalement notre personne incriminée, elle a des droits de la défense et notamment le droit de garder le silence. Elle a le droit de garder le silence, elle a le droit de répondre aux questions, elle a le droit de faire des déclarations.
Alors là, dans le cas dont je parle, en fait, il parlait à un moment où elle ne lui avait pas donné
trop.
La parole.
Trop.
Et donc là, en fait, elle lui a vraiment rappelé que ce n'est pas à lui de décider quand est-ce qu'il parle, c'est à elle.
Donc là, on est plutôt sur les règles.
Tout à fait. Elle a vraiment recadré, effectivement, de façon virulente.
Tout à fait. Mais alors moi, j'ai vu aussi des jeunes qui voulaient garder le silence. Et là, la juge, elle pousse quand même.
Elle
pousse vraiment jusqu'au dernier retranchement à faire des déclarations. Mmh. Alors, sur cette impartialité, déjà, on est un petit peu frontière. Et mais bon, voilà, on reste quand même dans les droits de la défense et dans les règles de la justice. Mmh. Au-delà des faits, sur la justice des mineurs, c'est aussi vrai sur la justice des majeurs, mais c'est d'autant plus vrai sur la justice des mineurs, c'est qu'il y a la partie psychologique.
Oui.
Et donc, le dossier du mineur, ce qui l'a amené là, ses parents, son contexte familial, psychologique, scolaire, personnel, médical, tout ça rentre en compte. Et c'est là où le rôle de la juge est très important, puisque finalement, elle va trouver la solution au milieu de ces infractions qui souvent trouvent racine, prennent racine dans un contexte personnel, d'un point de vue, je n'accuse ni les parents, ni la société, ni la rue, ni personne, mais sur un ensemble de facteurs
qui ont conduit cette infraction.
Qui ont été un terreau et qui ont permis de faire pousser cette graine de délinquance. Mmh. Et c'est là où l'impartialité, elle va se jouer. Est-ce qu'on fait vraiment une application de la loi ? Stricto sensu, c'est la société, tu as commis une infraction, peu importe, hop, la peine, c'est ça. Eh bien, dans ce rôle de modulation, où parfois, ça choque beaucoup la société, des fois, il n'y a pas de sanction. Il y a une absence de sanction. Oui. Ce n'est pas forcément qu'il y a une relaxe, mais on va faire une sanction plus informelle, on va faire un rappel à la loi, ce fameux rappel à la loi probatoire, ou mettre du travaux d'intérêt général, qu'il n'y a pas forcément...
Mettre en place une réparation plutôt qu'une sanction punitive.
Oui. Voilà, on est plutôt là encore pour amener petit à petit la personne à prendre conscience de son état, de ses infractions, de sa délinquance et l'amener sur le chemin de la société et de ses normes. Donc, dans ce rôle d'impartialité, l'aspect psychologique, on y passe énormément de temps. Et là, on a tous un nœud à l'estomac quand c'est ce moment-là, puisqu'on rentre vraiment dans les familles, dans les difficultés. Alors là, quand on est en correctionnel, quels sont les types de faits qui arrivent sur un tribunal correctionnel pour enfants on parle de viol pour mineurs, de viol entre mineurs. On parle de tentative de meurtre. Tentative, parce que si c'est un meurtre, ça part en cour d'assises. Il y a une cour d'assises spéciale pour les mineurs.
D'accord.
On parle de répétition, de faits de délinquance, on parle de vols, vraiment d'infractions qui auraient pu être commises par des adultes, qui sont des fois plus importantes que les adultes, parce qu'on est sur cette fraîcheur de la jeunesse qui n'a pas de limite, qui a besoin de faire ses preuves, qui est nourrie en plus d'un contexte de films, d'images du braqueur, d'images du délinquant, d'images du bad boy,
qui est très
valorisé.
Bien sûr.
Et puis, puis un autre contexte, c'est le contexte économique. C'est très difficile, mais c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes qui sont dans des situations économiques dramatiques, qui volent pour manger ou qui dealent pour vivre. Voilà, tout à fait. Juste une anecdote, je suis assermentée, je n'ai pas le droit de parler normalement des cas, mais il m'est arrivé de voir une fois le procureur qui prend la parole et qui engueule la mère de la personne qui avait commis l'infraction. Et là, je me suis dit,
c'est le procureur, c'est pas le juge.
C'est pas le juge, c'est le procureur.
Est-ce que c'est son rôle
J'étais là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors on reste bien stable et tout, c'est procureur, attention, c'est la figure titulaire de la société, on dit rien. Voilà. Et en fait, à la fin du procès, il est 23h, là, tout le monde est parti, et il nous explique qu'en fait, si le jeune, aujourd'hui, commet des infractions, en l'occurrence, là, il y avait du deal, eh bien, c'est parce que le deal est organisé au niveau familial et que c'est une source de revenus dans la famille. Et en fait, c'est la mère qui organise le deal, qui envoie ses enfants dealer.
Et
là, on comprend tout.
Parce que ça, vous ne le saviez pas, moment-là?
Ah non, non, bien sûr.
Parce que... Et parce que le procureur savait des choses que vous ne saviez pas.
C'est ça. Des choses qui ne peuvent pas être prises en compte parce qu'il n'y a pas de preuves.
Ah oui, quoi. D'accord.
Bah, c'est pas le temps de la justice du majeur. Ouais. Et c'est là où l'impartialité, elle joue encore. Et je me suis dit, oulala, est-ce qu'on est encore dans cette justice impartiale ou pas? Puis en fait, oui, parce qu'il n'est pas allé sur un chef d'accusation, il n'est pas allé sur une incrimination. Par contre, il a engueulé. Voilà, ce pouvoir d'aller engueuler les gens.
Bon, bah voilà, ça me fait penser aussi à beaucoup de décisions où le prévenu est relaxé. Et alors, c'est des cas, je pense plutôt à des cas un peu médiatisés, où le prévenu, qui est une personne publique, va aller sur les plateaux télé faire sa tournée en disant « je suis innocent », etc. Alors, c'est totalement faux.
Oui,
quand on lit le rapport du tribunal, il dit explicitement « non, nous sommes convaincus qu'il est coupable, mais nous n'avons pas la preuve, donc il est relaxé.
Oui, c'est la place de la fête.
Et donc, ça fait une immense différence. Et là, je dirais, la nullité de certains médias qui ne relèvent pas cette évidence, et ce n'est pas compliqué, il suffit de prendre le rapport du tribunal. C'est une façon de tromper la société.
Oui, oui, complètement. La relax et le non-lieu, c'est la même chose?
Eh bien non. Oui, oui. Alors déjà, parce que...
Tu pourrais nous faire
sur la relax, effectivement, il y a souvent cette absence de preuves.
Oui, voilà. Bien sûr.
Que sur le non-lieu, en fait, on est sur une absence de procès. En fait, le non-lieu, il n'y aurait pas eu besoin de faire un procès.
Ah oui, d'accord.
Ah oui.
C'est pas tout à fait la même chose.
D'accord. Voilà. Ouais, la relax, c'est il y a un procès.
Oui.
Parfois, on constate que la personne est complètement innocente et elle est relaxée.
Ou
parfois,
il y a absence de preuve,
on constate qu'il y a absence de preuve. Et donc, la personne, le tribunal peut être convaincu qu'elle est coupable, mais n'a pas les preuves pour le condamner.
Il suffit de lire le rapport.
Voilà.
Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un rapport du tribunal, mais c'est
la décision de justice.
C'est public, ces décisions de justice. C'est-à-dire, moi, si je veux aller lire la décision de justice d'une personne publique...
Pour les adultes, oui.
D'accord.
Oui, pour les adultes, c'est tout à fait...
Et on trouve ça où ?
Eh ben, c'est aux archives du tribunal. Il
d'accord.
faut pouvoir en faire la demande. Alors, souvent, on demande un intérêt à aller chercher ces jurisprudences, en fait, du tribunal.
Oui, c'est pas la simple curiosité.
Il faut pouvoir justifier. Voilà, je suis enseignante, j'ai besoin de telle chose. Je suis parent, j'ai besoin de connaître le passé de ma famille, ce genre de choses.
D'accord.
Mais pour la relax, ça m'est arrivé. Alors là, on va parler de ma fonction d'assesseur. Donc, je reviens sur le tribunal pour enfants, donc un juge, deux assesseurs. Même poids pour le juge et pour les assesseurs.
D'accord.
Une voix pour l'assesseur. Donc deux voix, en fait.
Une voix pour le juge et une voix pour
chacun des assesseurs.
Chacun des assesseurs. Donc, trois voix, du coup.
Trois voix pour poser un jugement sur l'infraction.
Oui.
Et je me souviens, parce que c'est un cas qui m'avait marqué, tout le monde savait que le jeune avait commis l'infraction. Mmh. Bon, c'était indéniable. Or, absence de preuves.
Ouais.
L'avocate du prévenu fait extrêmement bien son boulot. Elle dit, mais là, on ne le voit pas sur la caméra.
Elle est là pour défendre.
Elle a fait ça vraiment à la perfection. On pouvait pas. C'était du travail vraiment professionnel. Il n'était pas présent sur la caméra. Il dit qu'il n'était pas présent sur les lieux. Pourtant, tout fait que ce jeune était présent. Il y a eu une infraction au niveau de Villeurbanne. Et je me souviens, donc après, quand tout le monde a parlé, donc le tribunal se retire et donc on va en salle de délibération. C'est une petite salle qui est derrière. Et
donc là, vous partez tous les trois.
Et on part tous les trois. Tous les trois, on ferme la porte. Et là, c'est le huis clos complet où il faut qu'on tranche et qu'on prenne une décision.
Oui.
Et c'est la partie la plus intéressante. C'est déjà, nous, on peut s'exprimer. Et la juge dit, il faut vraiment qu'on mette une sanction pénale à ce jeune. Il était forcément là, c'est pas possible. On va lui mettre 6 mois de prison. Après, il y a du sursis. Voilà, mais c'était une première infraction, 6 mois. Tous ses copains étaient là, on va lui mettre 6 mois. Et je me souviens avoir dit, mais non, on n'a pas de preuves. On va au droit dans le mur. C'est pas possible. Vous-même, donc on part dans des débats. Et moi, je m'oppose. Je me dis, c'est pas possible, on peut pas. On est obligé de le relaxer. On s'oppose. Et donc, on avait une voix pour, une voix contre. Et celle qui a fait, qui a permis de trancher, c'est la deuxième assesseur qui m'a suivi, qui dit,
d'accord,
non, c'est pas possible, on n'a pas les preuves, on n'y va pas. Voilà.
Et du coup, là, on voit bien qu'effectivement, c'est compliqué. Parce qu'il y a la certitude que, et en même temps, s'il n'y a pas de preuves, effectivement, c'est très
compliqué. Donc, on était allé relax et on a dit aux jeunes, maintenant, au revoir, monsieur, c'était 23h, vous pouvez rentrer chez vous.
D'accord.
Ça démontre, là, pour le coup, cette impartialité.
Et est-ce que vous lui dites, on sait que tu as fait ça?
Non. En revanche, on va, quand la juge prononce sa sanction, prononce son jugement, on va sur les raisons qui ont permis d'amener cette relaxe.
Oui.
Et là, c'est assez neutre, en fait. On ne sait pas qui a dit quoi, qui a fait quoi. C'est simplement un prononcé de
relaxe. On va dire que c'est l'absence de preuves qui... Alors, on va devoir s'arrêter là, Émilie, c'est hyper intéressant. Et tout à l'heure, on avait envisagé la possibilité de faire une deuxième. Moi, je suis très, très partante pour que la prochaine saison...
On n'a pas répondu à la deuxième question, hein, comment elle s'adapte aux évolutions sociétales.
Ce sera
donc un prétexte pour une émission future.
Le sujet de la prochaine émission.
Parler des jugements pellicaux, par exemple, l'incrimination du viol, tout ça, ça fait partie de ces évolutions.
Merci beaucoup, Émilie. Merci Patrick et Jean-François, la technique, auditrice et auditeur de Caladma Radio. On vous souhaite une belle fin de journée.
Au revoir.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.